cours de nos dernières explorations océanes, nous avons vécu des instants très forts avec Cortés, avec Magellan, avec ces premiers grands explorateurs. Et finalement, on remarque qu'aux alentours de 1600, on commence à bien connaître la configuration de l'Atlantique, on commence à connaître l'océan Indien, avec toutes ces mers qui sont là, enfin, celles qui sont bordières. Et comme les Blancs cherchaient également à connaître le côté pacifique, et nous l'avons vu avec Magellan, eh bien, on voit petit à petit apparaître d'autres découvreurs, même s'il y a une sorte de trou. Il n'y a qu'une poignée d'archipels finalement qui sont connus. Je pense aux Mariannes, il y a les Carolines, il y a les îles Santa Cruz. Et tout cela avait été visité par les seuls qui voyageaient vraiment, c'est-à-dire les Espagnols. Et finalement, quand on pense aux îles Salomon, qui ont été relevées par Mendana, là, c'est au milieu du siècle, vers les années 1567, il y a quand même une certaine fantaisie comme ça. Il y a toutes sortes d'erreurs de navigation parce qu'on travaille encore à l'estimation. Et puis, finalement, il y a des endroits qui ne seront définitivement identifiés que pratiquement deux siècles plus tard. Alors ça, c'est assez incroyable parce qu'on sait qu'il y a, enfin, on savait en tout cas à cette époque qu'il y avait encore des mystères géographiques et il y avait des croyances qui étaient encore là depuis, je dirais, depuis l'Antiquité. On pensait à cette terra incognita, on pensait qu'il fallait une sorte de contrepoids du côté austral, là dans le sud, une sorte de contrepoids à toute cette masse continentale que l'on connaît maintenant, c'est-à-dire l'hémisphère nord. On cherchait vraiment une sorte de balance. Et puis, on pense par exemple à Quiros, on pense à Torres, qui était sûr d'avoir abordé cette fameuse région, enfin ce continent incroyable aux alentours des années 1600, c'est en 1606 exactement, lorsqu'ils ont touché les Nouvelles Hébrides. Et ces Nouvelles Hébrides, eh bien, finalement, on va remarquer que ça n'est pas tout à fait ça, mais quand on pense un peu plus tard, là, au milieu du XVIIe siècle, en 1642, vous avez Tasman qui va petit à petit démontrer que l'Australie, et il en a fait le tour, attention, n'était pas rattachée véritablement à la Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, il y aura ce fameux Rock Gavin qui va reconnaître cette île qui pour nous reste encore énigmatique, l'île de Pâques. Alors, il y a une chose assez fantastique à cette époque, c'est cette sorte de jalousie, une sorte de soin jaloux avec lequel l'Espagne va conserver ses découvertes de façon absolument secrète. Elle cache véritablement toutes les routes et à cette même époque, il y aura des guerres aussi qui vont commencer à ensanglanter toute l'Europe et finalement les gouvernements ne s'intéressent plus véritablement à ces grandes découvertes. Une sorte d'intérêt qui tombe petit à petit. Enfin, il y a des intérêts plus pressants, pour être plus précis. Et on navigue des mois hors de vue de la Terre, et il y a une sorte de discrédit qui va tomber petit à petit sur l'exploration maritime. Ça, c'est justement pendant ce XVIIe siècle, parce qu'on était trop habitué à ces succès d'avant. Il y a une sorte d'ampleur tellement importante, là, quand on parle du premier tour du monde. Enfin, là, on se dit qu'on a déjà tout découvert, finalement. Et c'est surtout le fait qu'on a découvert d'un seul coup trois continents supplémentaires à l'Europe, et les hommes de ce moment-là, eh bien, ils sont d'abord avides. On comprend très bien qu'ils recherchent systématiquement l'or, les épices, et le côté scientifique, ça les intéresse assez peu, parce qu'ils pensent uniquement à ces métaux précieux, à ces denrées tropicales qui sont extrêmement rares, et tout le monde pense qu'il ne faut pas chercher autre chose et qu'il n'y a pas à chercher autre chose. Alors c'est en comparaison, par exemple, je pense à l'Insulinde ou à toute cette Amérique espagnole, qu'est-ce que c'est que ces petits archipels qui traînent comme ça au milieu de cette immensité pacifique? Ça a été, je le disais, sommairement visité par Quiros ou par Tasman, on en parlera tout à l'heure. Et peut-être le Pacifique, il a été, bon, il y a eu une sorte de compétition entre les différentes nations. Et prenez le cas, si l'Australie, par exemple, était entrée dans ce qu'on peut appeler la civilisation de l'époque, là, il y aurait eu certainement un immense changement, mais malheureusement, par un concours de circonstances, les marins, par exemple, ceux qui venaient des Pays-Bas, qui vont longer les côtes occidentales entre 1616 et 1630, si vous pensez à l'anglais, par exemple, Dampier, qui est un flibustier, qui avec des parties de géographe, un petit peu des deux, comme ça, il va aborder à nouveau ce continent australien à la fin du siècle. Et il n'a remarqué en fait que des terres qui lui paraissaient totalement infertiles. Alors on se dégoûte de ce qu'on trouve dans ces cas-là. On laisse tomber un continent entier simplement parce qu'on n'a pas envie de s'y installer. Alors par bonheur, on va attendre à peu près 2 générations, vous allez le voir, et voici que tout à coup vous allez développer une sorte de mystique qui va réveiller une fois de plus le zèle de ces grands voyageurs. Quand je parle de mystique, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est la curiosité. Une curiosité qui devient véritablement scientifique. Et là, on découvre une véritable passion. Et ça, c'est intéressant parce que y a eu un développement du commerce international, il y a eu des guerres coloniales, il y a eu un essor des sciences, il y a eu l'astronomie qui a fait des sauts incroyables. Vous savez que c'est utile, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà été perdu sur un bateau en pleine mer, mais quand on regarde les étoiles ou les astres, eh bien on se dit que c'est important de bien les connaître et de savoir où l'on va. Et puis il y a surtout quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est l'histoire naturelle. Ça paraît évident aujourd'hui, mais enfin personne ne s'intéressait à l'histoire naturelle avant ce moment-là. Alors il y a une soif, une sorte de soif incroyable, celle de connaître. Il y a des élites fantastiques, le côté intellectuel se développe dans toute l'Europe. Il y a des explorateurs qui commencent à créer des programmes et puis ils ont alors pour la première fois des objectifs qui deviennent extrêmement précis. Alors là j'ai fait un saut en avant, je suis déjà en 1700, 1750. Je prends par exemple l'histoire de la navigation aux terres australes. Là, j'ai relevé le titre parce que lorsqu'on lit le président de Bross, eh bien, on se dit que là, c'est quelque chose de nouveau. Parce que lui, il proclame carrément qu'il faut un but au voyage et qu'on ne fait un voyage que pour avoir des compléments d'informations. C'est vraiment la richesse du moment. Et il faut des recherches savantes, il faut des recherches qui, pour la première fois dans le monde de ces découvreurs, correspondent à quelque chose de désintéressé. Alors ça, je trouve que c'est important parce que Cook, par exemple, dont on parlera au cours de ces prochaines semaines, eh bien, il va appareiller avec une mission qui devient purement géographique. Ce qu'on lui demande de faire, c'est de localiser, par exemple, le continent austral, de vérifier l'existence de ce passage au nord-ouest. Voilà 2 grands buts, hein, par le nord, par le sud, exactement, voir ce qui reste sur la planète. Quand on pense à Lapérouse, voilà un homme extraordinaire qui va faire pour la première fois au monde de l'hydrographie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est chercher vraiment toutes les côtes du côté nord-occidental de l'Amérique, rentrer jusque dans la mer du Japon, et vraiment tout pointer, tout marquer. Et puis en chemin, eh bien, on va créer petit à petit des cartes qui sont fantastiques, qui deviennent d'une minutie incroyable. On veut absolument que chaque morceau de terre soit découvert. Et en fait, on observe avec exactitude pour la première fois les mœurs, la faune, la flore, puisque je parlais d'histoire naturelle. Alors le progrès des sciences, ça impose quelque chose de tout à fait nouveau aux navigateurs. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on se disait, ben voilà exactement ce qui va faire l'outil de la réussite. Alors, il y a des astronomes, il y a des naturalistes, il y a des gens qui prennent le crayon comme ça, de véritables. On prend des plans, on dessine un animal nouveau, et bien on le photographie mentalement et on fait un croquis. C'est-à-dire que là, tout à coup, on s'intéresse à des choses qui sont tout à fait particulières. Il n'y a pas que des capitaines et de simples marins, il y a maintenant toute une équipe de chercheurs à bord. Alors, il y a aussi autre chose qui me paraît très intéressant, c'est qu'on commence à connaître parfaitement les maladies. Ça, c'est aussi la science, bien sûr. Et puis, pensez par exemple à ce sacré scorbut qui a fait mourir tant de marins. Et bien maintenant, quand on pense à Lapérouse, on le verra, Lapérouse n'a eu aucun problème par rapport au scorbut. Enfin, il y a une petite atteinte de temps à autre, mais enfin, on peut faire pratiquement le tour du monde sans aucun problème. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'était vraiment un cauchemar auparavant. Les vieux marins s'en rappelaient très bien. Et finalement, quand on a, par exemple, il y a autre chose, là, les coordonnées géographiques des lieux qu'on visite, quand on arrive à ne plus se tromper, c'est-à-dire que quand vous inscrivez tout cela et que vous ne faites des erreurs que d'un demi-degré ou alors de quelques minutes, là, je m'adresse aux marins, hein, quand on a fait une transatlantique une fois, on s'en rappelle. Eh bien, les cartes deviennent de plus en plus exactes. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on a de nouveaux instruments. Des instruments, on les appelle la réflexion. Vous savez ce que c'est? C'est l'octant, c'est le sextant. Et alors ça, c'est vraiment supérieur à ce qu'on utilisait auparavant. Il faut penser que pendant tout le XVIe siècle, on avait uniquement l'antique astrolabe et que finalement, on a encore une autre découverte. Ce sont les fameuses tables lunaires. Et les tables lunaires, elles sont imprimées là, juste au moment de ce moment où on écrit la fameuse connaissance des temps. Il y a aussi un almanach nautique qui a été fait par les Britanniques qui sort à ce moment-là. Donc l'observation astronomique, le calcul, je devrais dire, la mesure de la différence des heures entre le méridien d'origine et celui du lieu, voilà quelque chose qui change complètement la navigation. Donc on connaît avec précision la longitude et finalement, on a encore autre chose. Tiens, puisqu'on est à Genève, on peut penser par exemple à l'usage courant sur les bateaux de chronomètres. Ça paraît évident qu'on parte avec l'heure. Mais auparavant, personne n'était capable de connaître exactement l'heure par rapport à l'endroit d'où vous partiez, c'est-à-dire le décalage horaire. Eh bien, il a fallu des Anglais comme Harrison, il a fallu le Français Leroy, il a fallu Berthoud, là, on est un peu chez nous, entre 1760 et 1760, 1770, grosso modo. Et on va conserver à bord l'heure de Londres, l'heure de Paris. Et ça va faciliter véritablement les calculs. La Pérouse, il est parti avec 6 chronomètres sur son bateau et ils ont fonctionné avec une régularité parfaite jusqu'au bout du voyage. L'heure, le temps et surtout la connaissance, l'envie de tout savoir. Un peu d'avance, simplement pour aborder ces futurs marins, ces futurs explorateurs. Et j'ai envie de... Vous savez, ces anciennes cartes, un peu comme les portulans que l'on dépliait, que l'on déroulait, eh bien, essayez d'imaginer une carte du Pacifique aux alentours de 1750. Eh bien, les espaces blancs, là, sur cette immensité bleutée, c'est plus tout à fait aussi important qu'on l'imagine. Il y a eu des expéditions qui ont été organisées par des gouvernements. Là, je pense par exemple à la Russie. Eh oui, les Russes, donnez-moi le nom du navigateur russe. Ben, c'est Bering, bien sûr. Bering qui, lui, il n'avait pas beaucoup d'outils, lui. Hein. Quand je parle de science, il était encore vraiment au départ de tout cela. Il a découvert un détroit. Hein. Ce détroit qui séparait l'Asie de l'Amérique. Et puis ensuite, il a fait des relevés. Toute la côte orientale de la Sibérie, c'est un endroit très frais, comme ça, très sympathique. Et ensuite, le littoral méridional qui va de l'Alaska jusqu'à, vous savez, cet archipel-là. Regardez la carte, les Aléoutiennes, tout en haut, là. Et bon, bien sûr, y avait encore pas mal d'incertitudes au nord, mais alors au sud, je ne vous dis pas, il y a des énigmes incroyables. Il y a ce passage du nord-ouest que je viens d'évoquer. On le cherche toujours. On s'imagine comment, à partir de la baie d'Hudson, on peut traverser. On cherche aussi cette terre incognita dans le sud, je le disais tout à l'heure. Et on connaît par exemple la côte ouest de l'Australie. Ça, on la connaît assez bien. On connaît en fait juste le dessin de ses contours orientaux. Mais il y a toujours quelque chose de très hypothétique. On ne sait même pas s'il faut rattacher ce continent à la Nouvelle-Guinée. Et puis, il y a la découverte du détroit de Torres. Là, on ira tout à l'heure avec lui aux alentours de 1606. Eh bien, voilà quelque chose qui est curieux. Quand on veut parler de Torres, sachez quand même que tout ce qu'il a découvert a été enfoui véritablement dans des archives, ces archives espagnoles, et on ne savait absolument rien sur la véritable nature de cette Nouvelle-Zélande. Et puis, on se demandait si elle était liée à cette terre inconnue, à cette grande terre du Sud. Prenez par exemple... Il y a des endroits assez curieux, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, les îles Marshall, les îles Gilbert, les îles Gambier. Mais tout cela est encore complètement inconnu. Alors les cartographes, ils avaient posé comme ça, comme si on plantait des petites aiguilles sur l'océan, des îles complètement imaginaires. Et puis il faudra attendre une cinquantaine d'années. Il faudra Wallis, il faudra Carteret, il faudra Bougainville bien sûr. Et puis Cook, La Pérouse, Vancouver, avant que on ait véritablement quelque chose de précis. Et si je me replace un tout petit peu plus tard, en 1800, eh bien, pour la première fois, on voit quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, on a beaucoup avancé. Les grands mythes qu'il y avait encore à ce moment-là dans le Pacifique, tout ça s'est éclairci petit à petit. Bon, il y a eu naturellement la première circumnavigation du pôle austral. Vous savez que c'est Cook qui l'a exécuté là, à la fin des années 1700. Et puis, lui, sait maintenant qu'il n'y a pas de terre incognita. Ça a disparu. Et il existe peut-être là-bas du côté de l'Antarctide. On sait qu'il y a une banquise, que c'est quelque chose de complètement désolé, que c'est quelque chose de complètement inhabité. Et c'est à Cook aussi qu'il faut comprendre que lorsqu'en 1778, il a longé la côte de l'Alaska, et bien c'est grâce à lui, justement, qu'on est parvenu à trouver le passage, ce fameux passage du Nord-Ouest. Enfin, du moins, avoir démontré en tout cas qu'il est totalement impraticable. Pourquoi ? Eh bien, de nouveau, à cause des glaces. Il y a des glaces qui obstrue pratiquement toute l'année. Alors, tout ça, tout ce qui est encore du rêve, toutes ces croyances à une route d'eau vers l'Atlantique, à travers le continent américain, tout ça disparaît petit à petit. Et si je pense à Wallis, à Carteret, à Bougainville que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, ils vont rajouter des îles, ils vont remettre effectivement Tahiti, les îles Samoa, la Louisiade, les Salomon. Et bon, ces gens-là, en fait, ont exploré toutes ces îles de façon peut-être un petit peu hâtive. Ils étaient surtout... bon, pour eux, ce qui comptait, c'était de remplir les blancs de la carte, plus que de véritablement étudier la chose. Là, je reprends ce côté scientifique, mais ils ne l'avaient pas trop, mais quand on lit, par exemple, les relations de Bougainville, eh bien, on sait qu'il a même créé une sorte de mythe. Il n'y a pas que Rousseau dans l'histoire. C'est le bon sauvage. Le bon sauvage qu'il a rencontré un peu partout. Mais je dirais que c'est peut-être ça qui a fait sa gloire, beaucoup plus que son voyage lui-même. C'est sa façon de parler du bon sauvage. Et si vous prenez Cook, eh bien lui, il va dépenser au contraire des mois pour rechercher minutieusement tous les contours. Il y a déjà un sens de la vérité qui est absolument incroyable chez lui. Quand je pense à l'Australie orientale, à cette Nouvelle-Zélande, à tous les archipels polynésiens, eh bien, il est aussi minutieux que la Pérouse. La Pérouse, j'ai parlé de la mer du Japon tout à l'heure. Eh bien, il va nous permettre de connaître les Sakhalines, la Manche de Tartarie. Enfin, de nouveau, là, il y a un côté très pointilleux qui, petit à petit, se forme. Et je vous dirais quelque chose de curieux. Je dirais même que la mer ne suffit plus à ces navigateurs. Parce qu'en fait, à chaque escale, maintenant, ils s'informent. Ils veulent connaître les races, ils veulent connaître les mœurs, ils veulent connaître la faune, la flore, ça, je l'ai déjà dit. Mais il y a cette espèce de curiosité. Vous savez, quand on commence à botaniser, quand on commence à ramasser chaque petite herbe, chaque petite fleur, et qu'on décrit le type des pirogues qui glissent sur l'eau, qu'on se renseigne auprès des indigènes, et puis on veut connaître même leur danse, leur rituel, leur religion. Alors là, il y a des récits de voyages qui deviennent de plus en plus admirables. La vérité, c'est là justement où on se rend compte que des personnages comme Cook, comme La Pérouse, j'évoquais Vancouver aussi, eh bien, lorsqu'ils ont passé à quelque part, c'est un peu comme lorsqu'on a bien vendangé, lorsqu'on a bien coupé son blé, lorsqu'on a bien fait sa moisson, il n'y a plus grand-chose. Peut-être grappiller un peu, glaner éventuellement, mais tout est déjà fait. Alors, au terme de ces grands voyages maritimes, aux alentours de, je ne sais pas, à partir de 1840, grosso modo, il y a une ère nouvelle qui s'ouvre. Ça n'est plus de la navigation, ça n'est plus cette recherche des mœurs, c'est maintenant l'océanographie, la véritable océanographie, comme on la connaît aujourd'hui, qui est orienté vers les eaux elles-mêmes, si vous voulez, et surtout cette vie qui anime finalement le fond de l'océan, c'est-à-dire le relief sous-marin. Ça, c'est encore le dernier virage. Essayez de penser à ce bateau qui est parti comme ça, qui a créé une forme de croisière étrange, le Beagle. Le Beagle, à bord duquel il y a un homme très important, qui a complètement révolutionné le monde, c'est Darwin, bien sûr, et il rassemble des matériaux dans un journal, il étudie par exemple la formation des récifs coralliens. Alors ça, c'est véritablement la grande nouveauté. Et je dirais qu'une fois que dans la dernière circumnavigation du 18e siècle, on est véritablement à l'apogée, enfin à l'apogée, en tout cas à la fin en même temps, de la véritable exploration océane. Et j'aimerais commencer, revenir à ce 16e siècle, où un personnage, on ne sait même pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort, mais il est vraiment cette espèce de clé de voûte entre le 16e et le 17e siècle, c'est Torres. Luis Vaez de Torres, c'est peut-être un des personnages les plus mystérieux que je connaisse en tant que marin, parce que lorsqu'on essaie de retrouver ses récits, sa grande découverte du détroit qui sépare, là vous êtes entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, hein, et bien tout cela a été caché véritablement, je le disais, dans les archives espagnoles pendant plus de 150 ans. C'est exactement comme si on voulait absolument faire ignorer tout ce qu'on trouvait. Et on sait rien de cet homme à cause de cela. Finalement, on sait que c'est un navigateur habile, qu'il était courageux et qu'il était capitaine du San Pedro, qu'il était le second. Attention, ce n'est pas le principal lors de la grande expédition. Non, non, non. Il y a devant lui Ferdinand de Quirós qui commandait, lui, le San Pedro et San Pablo, hein, Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin, enfin, c'est le saint, double de ce jour-là. Et lorsqu'il part, eh bien vous le voyez partir d'un endroit qui était peu utilisé pour l'exploration. Là, vous êtes à la fin de l'année, c'est un des jours les plus courts de l'année, le 21 décembre chez nous, et là-bas, c'est un des plus longs puisque vous êtes à Lima. Et là, vous partez de ce port de la région qu'on appelle Callao aujourd'hui, Lima, qui est une ville insensée, d'une richesse fantastique. Là, vous partez en 1605 pour ce grand voyage de découverte à la recherche du continent austral qui est encore totalement inconnu. Alors, le chef, je dis, c'est Quirós. Eh bien, il avait navigué auparavant déjà sur l'océan Pacifique, il avait même découvert des îles et il voulait en fait les revoir. Chez lui, c'était un personnage étrange. J'ai essayé de l'étudier un peu. Il est à la fois visionnaire, c'est un espèce de mystique, il est un peu religieux. Là, on sent encore cette Espagne profonde, ce sens assez curieux de la religion, justement. Et on va faire voile à travers le vaste océan Pacifique et petit à petit les vivres, l'eau, le combustible, tout cela va se faire extrêmement rare. Et on imagine, c'est un peu comme pour Magellan. On se retrouve avec des équipages qui sont mis à rude épreuve. Il y a des îles qui apparaissent. Et puis ensuite, il y a des atolls. Est-ce que vous avez déjà abordé un atoll de corail? Ça émerge comme ça des profondeurs. C'est quelque chose qui paraît. Je sais pas, c'est vraiment. L'endroit où il y a un atoll, on a l'impression que l'océan est insondable. Il y a quelque chose de très curieux lorsqu'on voit affleurer ces étranges terres. Ben, c'est d'abord impossible d'aborder. Et vous ne pouvez absolument même. Enfin, c'est impossible de jeter une ancre. Ça descend trop vite. Et finalement, vous ne pouvez même pas vous approcher du rivage. Et c'est Torres qui, chaque fois, va conduire des détachements. Il essaye de gagner la terre. C'est lui qui va affronter. Il y a des récifs qui sont véritablement battus. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Oh, vous avez sûrement vu une fois ou l'autre des images des îles Marquises ou de certains de ces atolls un peu fous. Eh bien, on a l'impression que c'est véritablement battu par le ressac. Et quand on cherche un accostage, on se rend compte que c'est pratiquement impossible. Souvent, le seul moyen, c'est de faire ce qu'on faisait pour les grandes fêtes à l'île de Pâques, c'est de sauter, plonger. plonger dans l'eau et puis essayer de nager jusqu'à la rive, puisqu'il n'y a aucun moyen de laisser une chaloupe, il n'y a aucun moyen de laisser une ancre. Et chaque fois, Torres était le premier Européen à prendre contact sur des plages inconnues. Et là, souvent, il tombait sur des indigènes qui étaient armés. Et lui-même, eh bien, curieusement, Torres, on le sait par ses quelques bribes de chronique, par ses quelques lettres qu'il a envoyées comme ça à la fin de ses expéditions, on sait qu'il abordait toujours, soit à la nage, soit sur un canot, mais sans armes. Et il saluait les gens amicalement, il leur demandait par signe, bien sûr, un peu d'eau. Parce que souvent, on a soif lorsqu'on voyage sur de grandes distances à travers le Pacifique. Il cherchait des vivres. Et puis, il cherchait toujours des renseignements. C'est-à-dire que, on le voit bien là, faire des gestes, essayer d'expliquer en dessinant sur le sable ou en sortant quelques bouts de papier, peut-être un peu humides, chercher d'autres îles, connaître les distances en parlant avec les piroguiers, en parlant avec ses navigateurs locaux. Et finalement, Torres trouve... Un ancrage, c'est le premier véritable ancrage qu'il découvre aux abords d'une île qui est nommée par les indigènes Taumako. Taumako, c'est là que Quiros, naturellement, est resté à bord. Il avait plongé dans la mer, là je parle de Torres, il est grimpé sur la rive, en fait, cette sorte de grève rocheuse. Et là, il s'est rendu compte qu'à la différence des atolls de corail qui sont bas et qui sont en principe couverts de ces superbes palmiers, eh bien, Taumako, c'est une île qui est très élevée. Elle a une sorte de montagne très forte, comme ça. Il y a un côté boisé aussi. Et là, c'est tellement agréable que il n'en vient pas au bateau. Il s'y repose quelques jours. Il tient à rester là en compagnie des indigènes. Il va trouver de l'eau, des vivres frais en abondance. Et il apprend l'existence d'une quarantaine d'îles, grandes, petites, toutes habitées. Et il part ensuite à la voile pour les rechercher. Edom Aco, en compagnie de Luis Vaez de Torres, vous avez décidé de faire voile. Et vous apercevez, au bout de quelques jours, une autre petite île habitée par des indigènes. Et là, bon, il y a une forte résistance, il faut le dire. Et on refuse un peu la tentative de débarquement. Et alors, vous voyez surgir des crêtes d'une terre qui paraît beaucoup plus haute que toutes les autres. Des îles qui vraiment sont différentes de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Ce sont les Nouvelles Hébrides. Et là, Quiros prend cet endroit pour cette fameuse Terra Incognita Australis. Cette fois encore, c'est Torres qui part en avant pour marquer l'endroit où on pourra peut-être jeter l'ancre, qui va se battre pour mettre simplement pied à terre. Et en grande cérémonie, Quiros prend possession de l'île au nom du roi d'Espagne. Il confère à tous ses officiers des titres absolument pompeux. Il crée même un ordre de chevalerie. Vous voyez qu'on est resté très espagnol. Il y a ce côté mystique, il y a ce côté un peu curieux du bonhomme. Et Torres se vit attribuer le grade de maître de camp. Ah bah oui, c'est la première fois qu'on lui donne un véritable titre. Et il est toujours loyal envers Quiros. Il travaille, il continue sa tâche. Je vous dirais pas qu'il apprécie toujours, puisque là, on va lui demander... Y a un côté vaniteux chez son commandant. Et chaque jour, tandis que les prêtres qui sont là sur le bateau principal, ils sont là, ils officient, ils prient pour l'âme des méchants païens qui vivent ici, pour leur salut. Et puis ensuite, il y a malheureusement, comme on l'a souvent fait avec les Espagnols, on sort les arquebuses et ça éclate d'un coin à l'autre. On entend les tirs dans les bois et puis même sur les eaux des rivières où on remonte maintenant en pirogue. Et tous les jours, les indigènes courageux, défenseurs en fait de leur sol, ils s'opposent à ces soldats espagnols. Vous les voyez, ils sont bardés de fer. Je parlais des arquebuses, ils ont des épées. Et puis en face, vous avez des corps nus, ces corps très bruns d'ailleurs. Et puis ils n'ont que des arcs et des flèches. Alors ça, Torres, il n'aime pas du tout. Et curieusement, là, il fait le silence complet. Et on connaît ce petit passage comme ça aux Nouvelles Hébrides uniquement par d'autres récits. Et ils vont rester ici sur l'île d'Espirito Santo, je crois quelque chose comme 7 ou 8 semaines. Et Quiros va ordonner à la petite escadre de prendre la mer afin d'explorer la grande terre, celle qui est là vers le sud, comme on le croit. Et il y a le mauvais temps, ça arrive aussi, c'est pratiquement impossible d'avancer. Et curieusement, alors là, il y a quelque chose de curieux, oui, parce que quand on a un chef comme ça, eh bien, l'équipage du vaisseau amiral va se mutiner. Et à l'insu de Quiros, qui s'en est aperçu beaucoup trop tard, ils vont carrément virer de bord et hop, ils retournent en Amérique. Et là, rien à faire, Torres est abandonné, il est abandonné par son commandant, sans un mot, sans un signe, et il va attendre, attention, il y avait des ordres, c'est-à-dire que lorsqu'on fait partie de ces expéditions depuis Séville, depuis la cour d'Espagne, l'ordre était d'attendre tout simplement 15 jours avant de reprendre le voyage. Et il continue bizarrement vers l'ouest. Et c'est ainsi que l'avait ordonné le roi d'Espagne. Et bien lui, il continue sa mission tranquillement, je dirais avec beaucoup de conviction. Et il va partir d'Espirito Santo, qui n'était qu'une petite île. Et il met le cap d'abord au sud-ouest, jusqu'à ce qu'il arrive sur la carte. Là, je suis à peu près au 20e parallèle, donc à environ 300 km au nord de la Nouvelle-Calédonie. On y est maintenant. On voit qu'il n'y a pas de véritable terre telle qu'on l'attendait dans ces parages. Alors on tourne d'abord au nord et puis on a l'intention d'atteindre Mani, parce que Mani, c'est bien sûr l'Espagne, et on longe toute la côte nord de la Nouvelle-Guinée. C'est la première fois que l'on longe cette espèce de sous-continent, parce que quand on ouvre la carte de l'Australie et qu'on voit l'importance de la Nouvelle-Guinée, on est troublé. Et à sa grande surprise, il voit que la terre s'étend de l'est à l'ouest. Ça lui barre carrément la route. Et le vent l'empêche de se diriger vers l'est, de même que vers le nord. Et c'est la seule solution qui va s'offrir à lui, c'est de longer la côte vers l'ouest avec la terre à sa droite. C'est ainsi que Torres Grèce, va naviguer. Oh, je crois qu'il a fait quelque chose comme 800 ou 900 lieues de côte. Il va voir l'arrière-pays. Il voit qu'il y a des montagnes qui sont couvertes d'arbres, qu'il y a des plaines fantastiques avec une fertilité qui lui paraît même étrange. Il n'a jamais vu cela jusque-là dans le Pacifique. Et il voit des indigènes qui sont très curieux. Il les trouve très, très colorés. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit comment sont les Papous de Nouvelle-Guinée, c'est vrai que c'est une race tellement étrange, tellement différente. Et il y a surtout un naturel un peu. Bon, ce sont des gens qui sont agressifs, ce sont des gens extrêmement hostiles. Et sur cette distance, eh bien, il a dû chercher un passage à travers des récifs, à travers des rochers. Il y a des courants avec des voies navigables qui sont extrêmement dangereux. Et ben, il commence à sentir qu'il y a quelque chose à explorer. Alors, bien sûr, il va suivre, on le sait, en regardant véritablement plus tard, par rapport à la science, eh bien, on sait qu'il a longé la côte de la Nouvelle-Guinée sans apercevoir ce qui se trouve juste de l'autre côté, c'est-à-dire l'Australie. Il l'a juste raté. Et finalement, à l'île Ternate, où les indigènes s'étaient soulevés contre le gouverneur espagnol, Torres, avant de poursuivre son voyage vers Manille, où il arrivera au début du mois de mai, je crois, c'est en 1607 qu'il arrive à Manille, il débarque ses soldats, justement, sur cette île pour rétablir l'ordre. Vous voyez qu'il est resté très espagnol et qu'en fond, il défend véritablement la royauté. Et à Manille, en attendant l'heure de son retour, qui était d'ailleurs longuement différée, il veut retourner en Espagne, il va écrire deux lettres. L'une à Quiros, bien sûr, c'est encore son chef, et l'autre au roi d'Espagne. Et dans ces lettres, c'est une sorte de bref récit sur ses découvertes et ses aventures. N'oubliez pas que ces lettres, qui montrent à quel point il est loyal, il est brave, il est entreprenant. D'un navigateur hors pair, eh bien, il a véritablement terminé là sa période historique. Enfin, c'est en tout cas tout ce qu'on sait de sa vie. Mais on remarque que c'est un personnage qui sort de l'ordinaire, même s'il a été oublié pendant pratiquement 150 ans. En tout cas, ses découvertes majeures. Et j'ai envie de vous parler d'un autre personnage. Là, on avance un peu dans le temps. C'est quelqu'un qui est né en 1669 ou 1670 peut-être, et qui est mort carrément au XVIIIe siècle, en 1729, c'est Roggeveen. Roggeveen, lui, il cherchait à l'est de l'océan Pacifique la terre que l'on supposait avoir été vue en 1687 par un flibustier anglais. Là, il s'agit de Davis. Cet explorateur hollandais, Roggeveen, va découvrir en 1722 l'île peut-être la plus étonnante du Pacifique. Vous y êtes? Vous avez compris? Eh bien oui, c'est l'île de Pâques. C'est uniquement d'après le jour où elle a été aperçue pour la première fois. Elle a été vue un jour de Pâques. C'est une île mystérieuse qui est habitée par des Polynésiens d'un type tout à fait semblable je sais pas, je pourrais prendre les Maoris, par exemple, de la Nouvelle-Zélande. Et ils ont été séparés de leur race par des milliers de kilomètres. Regardez la distance sur l'océan. Et c'est une île qui est une somme. On disait déjà à l'époque de Roggeveen que c'était la patrie des dieux géants. Vous savez, ces dieux géants en pierre, cette pierre taillée. Et on ne connaît pas véritablement l'origine de cette religion. Mais en tout cas, ça demeure. Pour moi, aujourd'hui, peut-être une des incroyables merveilles, enfin un des mystères du monde, en tout cas, lorsqu'on aborde cette île de Pâques et qu'on voit ces yeux de nacre, ces chapeaux étranges faits de roches rouges et ces statues qui sont là, tout en bordure de l'océan. Alors, Jacob Roggeveen, il avait à peu près 60 ans à ce moment-là, avait fait toute sa carrière comme fonctionnaire. Il était simplement juriste au service de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, enfin orientales, oui, orientales. Et il était à Batavia. Et là, il allait rentrer au foyer dans sa province de Zeeland, en Hollande. Et avant lui, son père avait soumis à la Compagnie des Indes occidentales, voilà pourquoi je confondais tout à l'heure, le plan d'un voyage dans les mers du Sud. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est le plan que Jacob va reprendre aux alentours de 1720, et il va persuader la Compagnie d'équiper des vaisseaux. Il va demander trois vaisseaux, et on va lui en confier le commandement. Et il y a une sorte de jalousie conflit entre les deux compagnies. Lorsqu'on parle de cette Hollande du moment, et quand on parle des deux compagnies, qu'elles soient occidentales ou orientales, eh bien, à cette époque, il y avait une sorte de rivalité maritime aussi entre la France et l'Angleterre. Et la Compagnie des Indes occidentales, où, oh, elle avait essayé d'outrepasser ses droits en équipant une expédition qui était chargée d'explorer cette mer du Sud, et qui est comprise entre les limites qui étaient assignées à l'autre compagnie. La voyait très bien, comme si la chose était partagée en deux. Alors, dans ces conditions, eh bien, il avait pour instruction de retourner à Hollande par le détroit de Magellan, et oui, et ensuite de revenir par l'océan Atlantique. Mais son objectif était de découvrir véritablement des voies commerciales en plein Pacifique. Alors, vous avez un bateau qui s'appelle l'Arend, ça veut dire l'aigle, hein, en hollandais, et c'était celui qui avait été appelé, d'après le père de Roggeveen, le Tinhoven et l'Afrikanischen Galley, c'est-à-dire la galère l'africaine. Tout cela était bien équipé. Vous allez partir doucement sur les eaux et vous verrez, un jour, vous découvrirez Pâques, le jour de Pâques. Roggeveen partit d'Amsterdam en plein mois de juillet 1721. Il va entrer dans le Pacifique au mois de janvier. On a le temps, on le prend. Et puis il va contourner le Cap Horn, et il va passer le 62e parallèle. Et là, à l'île de Juan Fernandez, le Tinhoven rejoint les autres vaisseaux parce qu'on s'était écarté de la route dans l'Atlantique Sud. Et grâce à un vent dominant du sud-est, on avance rapidement. On est de concert, on va vers la Terre. Cette Terre qu'avait signalé Davis, il y a aussi d'autres aventuriers anglais qui en avaient parlé. Et on voit de nombreux oiseaux de terre et de mer. Vous les voyez là juste à côté des bateaux. Et il y a des brusques changements de temps. On a l'impression qu'on est à proximité d'une Terre. Mais Roggeveen a été très très déçu puisqu'il n'a vu aucune Terre avant le 6 avril. Et lorsqu'il a aperçu une toute petite île à laquelle il donne le nom d'île de Pâques. D'après le jour de la découverte, Roggeveen aborde avec un fort détachement qui a été pris dans les trois vaisseaux à la fois. Et malheureusement, deux indigènes, un peu plus hardis que les autres, tentent de s'emparer d'un mousquet, sur quoi un Hollandais va faire feu. Il y a plusieurs autres coups qui vont partir avant que le chef, le capitaine, ait pu intervenir. Alors, il a dû expliquer cet incident par des signes. Il a essayé de rétablir des rapports, en fait, un peu plus amicaux avec les indigènes. Ce sont des gens très, très humbles, finalement. Vous imaginez aussi le côté effrayé lorsque, pour la première fois, on entend une arme à feu. Et lors d'une d'une réunion, d'une conférence avec ses officiers supérieurs, eh bien, le capitaine conclut que l'île de Pâques n'est pas conforme à la description qu'en avaient fait les aventuriers anglais qu'il avait déjà effleuré, et il ajoute que ces derniers avaient dû être des brigands de la vérité. Ça, c'est lui qui le dit, parce que il a l'impression qu'ils sont aussi mauvais dans leur description que les Espagnols. Et au bout de 4 jours, dans l'île de Pâques, il va observer d'abord ces extraordinaires statues. Il va essayer de comprendre les mœurs des indigènes. Il va être ensuite chassé vers l'ouest par de violentes tempêtes, et il va rester là jusqu'à mi-mai, au moment où ses vaisseaux approchent du groupe très étendu des îles Tuamotu. Vous voyez où elles se trouvent ? Eh bien là, à la mi-mai, on aperçoit une île extrêmement basse, une île qui est curieusement sablonneuse. Il va l'appeler Karlshof, c'est l'île des chiens, bien sûr. Et le soir suivant, avec l'African Galley, c'est le bateau qui était en tête à ce moment-là, on va heurter un récif de corail. Et il y a des coups de fusil, il y a des feux qui épargnent aux autres vaisseaux un sort semblable. C'est-à-dire qu'on essaie de faire le plus de bruit possible, et aucun membre de l'équipage de cette galère ne va périr en abordant dans l'île dont les récifs faisaient partie. Un marin du Tihoven qui aidait à la manœuvre s'est noyé. C'est le premier gros incident. Il y a quelques coups de mousquet qui vont devoir chasser les indigènes qui sont effrayés par le bruit. Et puis, on avait allumé de grands feux sur la plage. Le lendemain, il y en a 5, là je parle des membres d'équipage, bien sûr, qui étaient descendus dans l'île et qui vont se mutiner. Ça arrive assez fréquemment dans ces voyages. Ils refusent de retourner à bord du Tihoven. Et après une courte lutte au cours de laquelle 4 d'entre eux furent blessés, mais n'ont pas été capturés, eh bien, le capitaine Roggeveen décide de les abandonner à leur sort, et il donne à cette île le nom de Pernicieuse. Si je le prononce bien en hollandais, c'est Shad Lake. Et c'est l'île de Tokapoto, et là, en 1765, il y a, vous savez, le fameux Byron, celui qui fait partie de la marine britannique, qui trouve dans une île voisine les restes de cette African Galley. Et oui, c'est comme ça qu'on peut terminer une aventure et perdre un bateau. Et pendant les jours qui vont suivre, je crois une quinzaine de jours, le Roggeveen va éprouver des difficultés à poursuivre sa route. Là, on est près des Tuamotu, et il va donner le nom à certain nombre de ces petits atolls. Enfin, il se retrouve de nouveau en pleine mer, et là, il trouve un nouveau groupe d'îles. Tout à coup, ça apparaît comme ça à l'horizon. Ce sont les îles Samoa. Et puis, finalement, on trouve des aliments frais, ça remet tout le monde un peu d'aplomb. Enfin, il y a une question de santé, bien sûr, parce que le scorbut existe encore. Et il y a la mousson. Il y a la mousson qui approche, il y a la peur aussi des indigènes. Et on se dit quand même, on aimerait bien y arriver à Batavia, parce que finalement c'est bien le but pour terminer ce voyage, et on poursuit notre route vers l'ouest avec on essaie d'aller le plus vite possible, hein, une sorte de célérité qu'on remarque, on sort les voiles, on essaie d'accélérer tout cela, et la maladie, elle est toujours présente, elle prend même des proportions un peu inquiétantes à partir de là, et il y a quand même, je crois, 60 ou 70 hommes d'équipage de ces vaisseaux qui vont mourir avant de jeter l'ancre devant le port de Batavia. Alors dans ce port, il y a des fonctionnaires. Alors rappelez-vous, nous faisons partie, on parlait tout à l'heure de ces deux compagnies, celle des Indes occidentales, cette compagnie des Indes orientales où nous sommes maintenant. Eh bien, on va traiter Roggeveen de contrebandier. C'est quand même assez curieux, hein, comme quoi on peut être ennemi dans son propre pays. Et on va carrément le traiter de pirate. Et c'est comme ça qu'il est accueilli, et finalement... je crois qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a des droits, je suis d'accord, ils sont exclusifs, mais en l'occurrence, on voyait d'un très mauvais œil cette intrusion de la Compagnie des Indes occidentales dans le Pacifique. C'est un peu comme si on faisait une concurrence. Le monde était coupé en deux, un peu comme entre le Portugal et l'Espagne à la Belle Époque. Eh bien, c'était la même chose. La Hollande avait décidé qu'il ne fallait pas confondre les deux compagnies, et il ne fallait pas mélanger les bidons. Et en l'occurrence, cette compagnie, les vaisseaux de Roqueville ont été même confisqués. Et attention, les survivants de son équipage, de ses équipages, vont être répartis carrément, mais comme s'ils étaient des prisonniers, sur d'autres bateaux, pour être ensuite transportés carrément jusqu'en Hollande. Ben, c'était le résultat du fait que Roqueville n'était pas rentré par l'Atlantique, comme c'était prévu au départ. Il en avait reçu l'ordre, vous vous rappelez, qu'il devait faire le tour et qu'il devait carrément rentrer par le côté atlantique. Non, 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 lui avait voulu continuer du côté pacifique, et finalement, en 1725, lorsqu'il est arrivé en Hollande et que l'affaire va passer en justice, bah, Roqueville sera finalement justifié, on va lui rendre ses biens, et il est reçu de façon assez incroyable. Je dirais même qu'il y a une sorte de dédommagement qui lui est fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose d'incroyable. Sa femme était malheureusement décédée avant lui. Lui va mourir, je vous l'ai dit au tout début, il est mort en 1729, donc 4 ans après son retour. Quand vous rentrez et que vous n'avez plus de femme, c'est que vous ne laisserez aucun descendant. Et finalement, dès son retour au pays, le compte rendu, c'est-à-dire l'écrit de son voyage par lui-même, au lieu de rester enfoui dans les archives de la Compagnie des Indes occidentales, a été publié à la place de celui de Behrens. Behrens, c'est assez curieux parce que c'est un récit un peu vague, un peu contradictoire, et les géographes, les navigateurs auraient eu à leur disposition des renseignements très très importants, très intéressants sur l'océan Pacifique, et qui auraient pu complètement modifier, qui auraient certainement dû modifier le cours des grandes explorations du XVIIIe siècle si tout avait été fait dans l'ordre. Or, ce compte rendu n'est paru. Essayez de deviner en quelle année il est véritablement paru. On croit rêver, en 1911.
Thank you.